Chapitre 25. Saga s'approche prudemment de la maison. Les autres la suivent. Tout est d'un calme hypnotisant. On n'entend que le bourdonnement des insectes qui volent au-dessus des mauvaises herbes et le clapotis d'une barque amarrée qui cogne doucement contre le quai. Une femme sur la terrasse est allongée sur le dos, parfaitement immobile, la bouche entrouverte et les yeux fermés. Saga observe son visage détendu, ses rides d'expression, les taches de rousseur sur son nez. La lumière se déplace lentement sur sa poitrine. Le tissu fin et jaune de son vêtement se resserre sur ses seins au rythme de sa respiration lente. « Tout le monde dort », murmure Saga. Les quatre policiers continuent à longer la terrasse. La femme allongée près des marches ouvre les yeux, puis les referme lorsqu'ils passent devant elle. Le sol en bois de la terrasse craque sous leur poids quand ils se dirigent vers l'entrée d'une grande salle de yoga.
« Non, s'il vous plaît !»
dit une femme sur un ton ferme avant de se lever. Elle se campe devant eux, le dos bien droit et les jambes écartées. Ses cheveux noirs, méticuleusement brossés, sont séparés par une raie centrale parfaite. Elle a des cernes sous les yeux et une de ses incisives est cassée.
« Qu'est-ce qui se passe ici ?» demande Magnus en faisant un signe de la main vers les corps allongés.
« Yoga Nidra, le sommeil yogique, » répond-elle. « Désolé de vous interrompre, »
dit Luke,
« mais nous devons parler à Svetlana Jonsson. » « Écoutez-moi toutes, »
dit-elle aux autres femmes allongées.
« Vous pouvez vous réveiller ou rester en état de sommeil aussi longtemps que vous le souhaitez. Faites ça à votre rythme. Je vous remercie pour ces 5 jours. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous rencontrer. »
Elle suit Magnus et Luke qui sont descendus sur l'herbe du côté du lac. Juna et Saga, eux, s'attardent sur la terrasse. Ils cherchent Suzanne parmi les femmes allongées et, ne la voyant pas, ils pénètrent dans la salle de yoga. Leur plan est de la trouver et de l'arrêter discrètement pendant que les deux policiers parlent à Svetlana de son témoignage. Une jeune femme descend l'escalier en bois de l'étage supérieur. Elle est pieds nus et porte une robe jaune translucide. Ses cheveux blonds sont emmêlés et ses lèvres sont sèches. Elle a des coups de soleil sur les joues.
« Je peux vous aider ?»
demande-t-elle avec un sourire.
« Vous habitez ici ?»«
Si j'habite ici, nos âmes sont libres, n'est-ce pas ? Mais oui, j'ai été admise dans la communauté le jour de l'équinoxe de printemps. »
« Savez-vous où se trouve Suzanne Yelm en ce moment ?» interroge Juna.
« Suzanne ? Que lui voulez-vous ?
C'est privé. Il s'agit de ses enfants, »
dit Saga. « Et c'est urgent, » ajoute Juna.
Elle croise les doigts devant elle en souriant, comme si elle essayait d'éloigner le diable. Puis elle rit doucement.
« Je comprends. Les enfants sont la véritable manifestation divine, n'est-ce pas ? L'utérus et l'enfant. Mais là, je remarque que vous vous impatientez. Mon Dieu, quelle femme agaçante, vous vous dites.
Ce n'est pas faux, répond Saga.
Je ne suis pas ton ennemi. Tu ne le sens pas ?
Lui lance-t-elle sans la quitter des yeux.
Il n'y a qu'amour entre nous deux.
C'est bien.
Quelques femmes viennent s'asseoir au sol près d'eux et les observent d'un air curieux.
Dites-nous où nous pouvons trouver Suzanne, répète Juna.
Suzanne,
répète la femme en s'éventant avec sa main.
Elle est allée au compost avec les seaux. Elle devrait bientôt être de retour.
On ne peut pas attendre, dit Saga.
Où est le compost? Vous devez comprendre que nous faisons attention à la nourriture. Nous suivons les règles ayurvédiques. Et nous faisons attention au compostage. Seules les femmes de la retraite peuvent s'y rendre.
Où est le compost ? S'impatiente Saga.
C'est un peu plus loin dans la forêt. Il y a un chemin derrière le hangar, répond la femme en désignant par la fenêtre un bâtiment à l'arrière de la grande maison. Mais nous vous demandons de respecter nos règles.
Ils sortent sur la terrasse. La femme les suit lorsqu'ils contournent la maison, puis elle s'arrête et les regarde s'éloigner d'un œil inquiet. Saga et Juna se hâtent de monter vers le hangar où sont stockés les outils et le bois de chauffage. Ils repèrent le chemin et s'enfoncent parmi les arbres. La forêt s'épaissit. La lumière devient plus douce et l'air facile à respirer. Ils passent devant un énorme pin déraciné, sans doute renversé par le vent. Le chablis a laissé dans la terre un double trou qui forme le symbole de l'infini et s'ouvre comme une porte vers les enfers. La professeure de yoga s'arrête sur le ponton et explique à Magnus et Luke qu'elle ne sait malheureusement pas où se trouve Svetlana.
« Il faut vraiment qu'on lui parle. » commence Luke. « Je ne peux pas vous aider, » répond froidement la femme.
« Écoutez, nous savons que Svetlana est la victime dans ce procès, mais c'est la loi de se présenter au tribunal et de témoigner quand on vous appelle. » C'est obligatoire.
Mais si on ne peut pas ?
Demande la femme.
Dans ce cas, il faut que ce soit confirmé par un médecin.
Et il y a d'autres façons de recueillir un témoignage, explique Magnus. Par le biais d'une liaison vidéo, par exemple. Elle serait alors dispensée de voir l'auteur de l'infraction. Nous allons trouver une solution qui fonctionne pour elle. Mais nous devons lui parler.
La professeure de yoga les regarde d'un air dédaigneux.
Vous auriez dû envoyer une policière, rétorque-t-elle.
Nous savons que ça aurait été la meilleure chose à faire, mais nous n'avons pas eu le choix, dit Luke.
Ce lieu n'est pas interdit aux hommes, mais c'est censé être une zone libre pour les femmes.
On peut attendre ici, au bord de l'eau, si c'est plus simple, suggère Magnus.
D'accord, dit la femme en serrant les dents et en regardant en direction d'une maison rouge à la lisière de la forêt.
« Vous pouvez aller la chercher ?» demande Luke.
« Je ne suis pas autorisé à aller dans l'ashram, mais je vais m'assurer qu'elle sait que vous êtes ici quand nous déjeunerons. »«
C'est la maison là-bas ?» dit Luke en commençant à marcher vers le bâtiment.
« Vous n'avez pas le droit. »«
Non, vous vous attendez ici. »
l'interrompt Magnus en se mettant en travers de son chemin.
« Vous ne savez pas ce que vous faites !»
l'avertit la femme, avec de la peur dans les yeux.
« Vous et moi, nous restons ici à discuter pendant que mon collègue va chercher Svetlana !»
explique aimablement Magnus.
« N'y allez pas !»
crie-t-elle dans le dos de Luke.
« Je dois vous demander de vous taire !» dit Magnus.
« C'est une propriété privée !»
crie-t-elle.
« Je vous promets que tout ira bien. »
la rassure-t-il.
« Non.
Je sais que cet endroit est spécial, mais vous devez respecter la loi suédoise, même si vous trouvez ça pénible ou que ça constitue une violation de la vie privée. »
Luke suit un sentier battu à travers des herbes hautes et se dirige vers un bâtiment rouge aux angles blancs. Il entend les cris agités de la professeure de yoga derrière lui et se souvient qu'ils ont suivi des cours sur la manière d'éviter d'offenser les femmes musulmanes dans l'exercice de leurs fonctions. Mais là, ils n'ont pas le manuel. On entend de légers tintements provenant d'un carillon éolien composé de plumes et de bouts d'os suspendus à un arbre. Luke ne sait pas ce qu'est un ashram, mais il imagine que c'est une sorte de temple avec des images de dieux et des fruits en offrande. Une grande pièce se laisse deviner entre les rideaux jaunes flamboyants de l'une des fenêtres de la façade. Luke enjambe les hautes fougères, tout en s'aidant de ses mains, et s'approche discrètement pour regarder par la vitre. Il n'y a personne dans la pièce, mais des vêtements sont posés sur un tabouret, un jean bleu, une culotte noire en dentelle, une robe en tissu batique, des chaussettes sales, un grand soutien-gorge blanc. Le sol est recouvert d'un tissu rouge brillant. Un rideau bleu foncé avec des petites étoiles argentées est suspendu devant la porte du couloir. Trois bâtons d'encens sont plantés dans un bol de sable posé sur une table basse. De leur extrémité incandescente s'élèvent trois fines volutes de fumée. Un peu partout au plafond, des petits miroirs sont suspendus à des fils de différentes longueurs, et une lanterne en cuivre ajourée diffuse des centaines de points lumineux sur les murs couleur safran. La moitié de la pièce est masquée par un paravent composé de trois pans de tissu imprimé, reproduisant une des sculptures des temples de Khajuraho, la célèbre scène érotique où quatre femmes au sourire doux ont des relations sexuelles. Le que voit soudain les trois volutes d'encens se déporter sur le côté. Les points lumineux au plafond vacillent. Il y a quelqu'un dans la pièce. Il se protège de la lumière avec ses mains et appuie son front contre la fenêtre, si bien que la vitre est embuée par son souffle. L'un des miroirs au plafond pivote, et la pièce défile lentement dans le reflet. Un coussin violet avec des pompons dorés. Le bord d'un lit avec un drap rouge, puis un pied qui remue les orteils. Un autre miroir au cadre argenté tourne plus vite. Le que découvre trois corps, nus, sur le lit.